est plus à trois avec Laurie.
Heureusement qu'elle était là, parce que du coup, ça revenait pas cher. Et en plus, on a Disney+.
J'adore voir les petites images qu'on a choisies chacune à chaque fois que j'ouvre Disney+.
Pas trop. Ça fait plaisir. Du coup, je pense à vous tous les jours. Bienvenue sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café ou chocolat et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
Ici, pas de prise de tête, ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et pour ce deuxième épisode, on inaugure notre format Popcorn Talk. Les épisodes blabla, comme on dit.
Oui, c'est ça.
Où on ne parlera pas d'un film ou d'une série en particulier, mais plutôt d'une thématique générale ou d'un sujet divers. Bref, c'est nos épisodes divers.
On peut dire ça.
Et aujourd'hui, Disney+, puisque ça fait du coup maintenant quelques mois que la plateforme est disponible en France. Donc on s'est dit que c'était le bon moment de revenir sur notre expérience de ces premières semaines et mois sur la plateforme pour vous dire ce qu'on en pense, nos petites découvertes, tout ça.
Exactement. Et du coup, on va commencer par parler un petit peu de la plateforme de manière en général, le tarif, l'interface, les comparaisons avec les services de vidéo comme ça plus connus. Et ensuite, nos petits coups de cœur, ce qu'on trouve dessus, pour finir avec un petit bilan, est-ce que ça vaut le coup ou pas, en fonction des personnalités.
Donc, on va commencer par le sujet qui intéresse tout le monde, le prix. Combien ça coûte, Disney+
Alors, Disney+, ça coûte 6,99€ mensuellement, donc sans engagement. Ou alors, 69,99€ pour l'année entière.
Voilà. Ouais, donc c'est pas très cher, c'est un peu moins cher que les autres plateformes type Netflix et OCS.
Oui, on en reparlera après justement quand on fera une petite comparaison.
Mais ce qui est intéressant, c'est que comme les débuts, comme au début de Netflix, qui est maintenant plus trop le cas, enfin il faut payer plus pour le faire, mais pour l'instant Disney+, on peut se le partager à plusieurs puisqu'on a possibilité d'avoir plusieurs écrans en même temps pour ce prix-là.
Oui, 7 utilisateurs, 4 écrans en même temps. Donc effectivement, nous, on a opté pour la formule annuelle et on s'est partagé à 3. Donc ça permet de répartir les frais. Donc ça reste quand même très abordable.
Ouais, c'est pas mal.
Au niveau de l'interface, moi personnellement, j'ai trouvé que l'interface était assez agréable. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs groupes de rangements, donc par exemple au fil des décennies. Ça, j'ai trouvé que c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est marrant de voir les tout premiers et par rapport à ceux de maintenant. La catégorie Marvel, la catégorie Star Wars, la catégorie documentaire, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, j'ai repéré pas mal de bugs, je pense que toi aussi.
Ouais, c'est clair.
Moi, personnellement, les langues se changent toutes seules. Donc quand je lance un film, il est déjà en anglais, normalement sous-titré français, mais il est en allemand.
Ah ouais?
Ouais, c'est sympa.
Ah, j'ai pas eu ça.
T'as pas eu ça? Et du coup, quand je regarde la langue, ils m'écrivent que pourtant elle est en anglais, hein, donc je suis obligée de changer de langue pour que là avoir la langue vraiment que j'ai choisie et ensuite revenir sur l'anglais.
Ah, c'est marrant ça.
Alors, on en reviendra après, mais du coup il y a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps, ce bug-là a disparu depuis. Voilà, donc je ne sais pas si ça va être le cas de tous les autres bugs dont on parle, mais depuis, je n'ai pas eu ce problème-là depuis la mise à jour.
Moi j'ai plus eu le problème que comme je n'ai pas une connexion internet top, ça fait ressortir la faiblesse en fait de la plateforme à ce niveau-là. Autant avec Netflix, ça marche bien, même si, enfin, je sais pas comment ils se débrouillent, mais même quand on a une connexion pas top, c'est fluide, on arrive à pas avoir de coupure quand on regarde quelque chose, etc. Là, Disney+, je galère quand même. Dès que je l'essaye de regarder, par exemple, dans la soirée ou particulièrement quand je suis là à Marseille où tout le monde est sur Internet en même temps et où du coup, j'ai pas une connexion top, c'est vraiment... Ça galère vraiment, quoi.
Ouais,
donc, mais là, c'est... Ouais, et là, je vois vraiment la différence avec Netflix à ce niveau-là. Autant OCS, c'est à peu près comme Disney+, à ce niveau-là, mais ouais, là, c'est encore... C'est pas très stable, quoi.
D'accord. Ouais, alors que moi, comme j'ai la fibre, j'ai pas, du coup, ce souci-là. Après, moi, c'est plus, du coup, des soucis internes à la plateforme, mais je pense que ça va changer avec les améliorations, hein. C'est la première version. Moi, j'ai, par exemple, les épisodes dans le désordre dans certaines séries. Donc pareil, on en reparlera quand on parlera de nos coups de cœur, mais je suis tombée amoureuse du dessin animé La Bande à Picsou.
Ah bon, j'étais pas au courant.
Je crois que j'en ai beaucoup parlé. Et du coup, les épisodes sont dans le désordre. Donc, comme je connaissais pas trop, j'ai regardé. Enfin, je parle de la nouvelle série. Hein, j'ai regardé les épisodes l'un après l'autre. Et puis, au milieu de la saison, je me rends compte que c'est l'épisode où, bah, justement, Riri, Fifi, Loulou arrivent chez leur oncle Picsou et le rencontrent pour la première fois. Et là, je me suis dit, ah, je pense qu'il y a un problème. Donc, bon, c'est des petits trucs comme ça ou qui sont pas hyper graves, mais je pense que ça va changer.
Ouais, mais j'étais assez d'accord avec toi sur la manière dont t'es présentée la plateforme. C'est assez sympa et je trouve que ça a du coup un côté un peu archive où tu peux vraiment choisir par rapport aux époques et par rapport aussi aux différentes franchises qui se retrouvent du coup sur Disney+.
Ouais.
Et ça vraiment, c'est quand même pas mal. C'est pas forcément évident de trouver ce qu'on cherche, par
Non.
contre. Là, pareil, tu disais que la barre de recherche n'est pas encore très au point.
Oui, bah c'était par exemple si on cherche, je sais plus, les 101 dalmatiens, si on écrit 101 en lettres ou en chiffres, si c'est pas enregistré en lettres ou en chiffres, eh ben on ne le trouvera pas.
Ouais.
Donc bon, c'est des petits trucs comme ça.
Ouais. Mais par contre, pour trouver, pour naviguer sur la plateforme sans savoir exactement ce qu'on a envie de regarder et trouver des choses. En fonction de si on a envie de regarder quelque chose de très vieux, d'ancien, de telle époque, et des choses qu'on ne connaît pas forcément, là, pour le coup, la plateforme, elle est bien faite pour ça, quoi. Pour se perdre dans les
Oui, c'est ça.
méandres de l'histoire de Disney.
Oui, bah exactement. Je pense qu'elle est plus faite pour justement redécouvrir des choses que regarder des choses qu'on connaît déjà.
Ouais, je suis d'accord.
Donc du coup, on n'arrête pas de parler de Netflix. On fait une petite comparaison rapide avec justement bah, les trois qu'on connaît. Moi, je sais qu'on a toutes les deux Netflix. Moi, j'ai eu Amazon Prime pendant un moment et toi, OCS.
Ouais.
Donc au niveau des tarifs, Netflix est un petit peu plus cher, parce qu'il part de 7,99€ à 15,99€, suivant si vous voulez avoir un à quatre écrans. Après, il est beaucoup plus complet, il y a moins de bugs et plus d'expérience, hein, donc parce qu'il est aussi plus vieux, donc je pense que ça aide, il est plus réactif. Et du coup, j'avais trouvé sur le journal du geek des petites infos sur le nombre de contenus, parce que c'est vrai que j'avais un peu de mal, parce que c'est tellement énorme ces catalogues qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'il y a d'un coup. Et Netflix, ils sont premiers sur les plateformes et il a 3867 contenus, donc
Ouais.
films, séries et documentaires, ce qui est quand même énorme.
Ouais, c'est clair. Bah, ça se sent hein, quand on est sur Netflix,
Oui, ça c'est sûr.
c'est
Et puis
assez
il y a beaucoup
massif.
plus de nouveautés qui arrivent régulièrement.
Ouais.
Après, en deuxième, on a Amazon Prime avec 3247, donc c'est juste en dessous. Et pourtant,
Ouais.
il est vraiment beaucoup moins cher. C'est le moins cher de toutes les plateformes. Il est à 49€ l'année, donc ça fait moins de 6€ par mois pour trois écrans.
Ouais, c'est clairement le moins cher. Moi, je connais pas du tout Amazon Prime,
Alors,
donc.
bah, moi, j'y suis allée, en fait, j'ai testé le mois gratuit. Et j'ai vite abandonné parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contenu. Alors j'ai été très surprise de voir qu'il y en avait quasiment, il y en avait un tout petit peu moins que Netflix et beaucoup plus que Disney+. Parce que effectivement, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. J'avais vite fait le tour, j'avais regardé les deux, trois trucs qui m'intéressaient en un mois et j'ai abandonné. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles propositions, par exemple toute la trilogie du samedi qui revenait. Et je me suis dit, ah, peut-être que cet été, je vais me relaisser tenter.
Peut-être que jusqu'à présent, il y avait peu d'exclusivité Amazon et peut-être qu'ils avaient un gros catalogue de films pas forcément exclusifs à Amazon, mais que maintenant ils récupèrent peut-être des choses que les autres n'ont pas. Alors que je suppose qu'il y avait quand même, vu les contenus massifs, qu'il y avait quand même des choses qui étaient à la fois sur Netflix et sur Amazon pour les films qu'aucune des deux plateformes ne possède, enfin ne possède dans le sens que c'est pas de leurs exclusivités,
Ouais.
je pense que ça se recoupait. Enfin,
Oui,
j'imagine, hein, j'en
j'imagine,
sais
je sais
rien,
pas du
mais.
tout, sûrement.
Et du coup, pour OCS, donc moi, je connais cette plateforme depuis très longtemps, puisque c'est mes parents qui sont abonnés, donc j'en profite. Je pensais que c'était la plus chère, mais en fait, finalement, bon, c'est le premier prix, c'est 10 euros par mois, enfin 9,99 € pour trois écrans. Donc au final, c'est équivalent à Netflix, hein,
Oui.
quasiment, par rapport au nombre d'écrans qu'on peut avoir. Et 12 euros, enfin 11,99 € pour 4.
Oui, donc là, un tout
Donc
petit peu moins cher que Netflix.
voilà. Alors effectivement, sur les chiffres du Journal du Geek, ça serait la plateforme où il y a le moins de choses dessus, puisqu'il n'y aurait que 587 films et séries et documentaires, parce qu'il y a aussi des documentaires. Mais en fait, je pense que c'est un peu trompeur par rapport aux autres plateformes, parce que OCS, contrairement aux autres, Ça, c'est, en fait, c'est vraiment une sélection de films plus qu'un catalogue à part pour ce qui est du catalogue HBO, où là il y a tout HBO et ça reste dessus et c'est comme le contenu Netflix qui reste sur Netflix, quoi.
Ouais.
Donc, et ça, quand même, c'est du contenu de grande qualité, quand même, HBO. Niveau série, c'est quand même pas mal. Mais pour tout ce qui est film et autres séries, c'est plutôt des sélections par cycle, par thème, et du coup qui changent tous les mois quasiment. Il y a vraiment un travail pratiquement éditorial en fait, où c'est vraiment des sélections qu'ils proposent. Donc ça change très souvent. Et aussi la grosse différence par rapport aux trois autres plateformes, Netflix, Amazon et Disney+, c'est que OCS peut avoir, un peu comme Canal+, des nouveautés en fait, très rapidement après la sortie en salle. Puisqu'ils ont des accords avec les organismes qui représentent le cinéma en France par rapport à la chronologie des médias dont on parlera, puisque ça va être un problème pour Disney+.
Oui.
Et du coup, OCS, par exemple, le dernier Spider-Man Far From Home, il est déjà sur OCS.
Oui,
Donc,
qui ne sera pas avant un moment sur Disney+.
alors qu'il ne sera pas avant 3 ans sur Disney+, quoi. Donc, c'est quand même un gros avantage malgré le chiffre qui est beaucoup moins impressionnant. On a vraiment des films, à la fois beaucoup de films très vieux aussi, puisqu'il y a toute la partie film un peu très ancien. Mais du coup, voilà, c'est une sélection plus ciblée, quoi.
Et du coup, juste petite question, parce que moi je connais pas du tout OCS. Netflix, Disney+, Amazon Prime, ils font tous un mois gratuit. Est-ce que OCS aussi fait un mois gratuit?
Oui.
Ok,
Ah
je
oui,
testerai
ils
alors.
font... Bref. Bah, je me souviens qu'ils avaient fait une énorme promo à l'époque de Game of Thrones, puisque
Ouais.
c'était les seuls à avoir Game of Thrones tout de suite, quoi. Donc ouais, ils avaient fait pas mal de promos à ce moment-là, mais je pense que le mois gratuit, il est toujours... C'est comme toutes les plateformes, quoi, il n'y a pas
D'accord,
quoi de
bon,
dire.
mais je testerai alors. On passe sur le contenu?
Oui!
Bon alors le contenu, comme son nom l'indique, on retrouve tous les anciens films Disney, Pixar, les courts-métrages avec Mickey et ses amis, les séries diffusées sur Disney Channel. Comme maintenant Star Wars a été racheté par la compagnie Walt Disney, on a également du coup tous les films et séries Star Wars. On a les Marvel, on a les Simpsons, les documentaires National Geographic. Dit comme ça, on dirait que c'est beaucoup, même si au final c'est pas tant que ça. Mais on a également tous les making-of pour chaque film, et ça, je sais que toi, tu es une grande fan.
Oui, trop bien. Même si quand même, quand on annonçait, oui, il y a du bonus pour chaque film, etc., et qu'on retrouve un peu ce qu'on avait sur les DVD, par exemple, puisque ça, j'en parlais dans notre épisode zéro, mais c'est presque mon regret maintenant qu'il y ait plus, enfin, qu'on soit obligé d'avoir les Blu-ray ou les trucs comme ça pour avoir tous les making-of, même si maintenant il y a de plus en plus de choses qui sont directement en ligne sur les plateformes, justement, ou sur YouTube. Et là, je m'attendais à retrouver vraiment, par exemple, tous les making-of de tous les films Disney qu'on avait sur les DVD. Et c'est pas tout à fait le cas. Je suis allée voir, par exemple, pour Pirates des Caraïbes. Et c'est quand même, il n'y a pas grand-chose, alors que sur les DVD, il y avait beaucoup plus de contenu de making-of. Mais effectivement, et notamment pour les nouvelles séries, genre au hasard The
Oui.
Mandalorian, là, ils ont carrément fait les choses en grand, quoi. Il y a une série making-of spéciale pour The Mandalorian qui est géniale, quoi.
Ouais. Bah justement, en parlant de The Mandalorian, du coup, il y en a toute une partie Originals avec des reportages sur Disney, des séries exclusives à Disney+, des reportages sur Disneyland aussi, sur les personnes derrière les films, sur les compositeurs, je pense aussi au reportage sur les frères Sherman. Du coup, il y a quand même un contenu qui est assez inédit et intéressant.
Ouais, c'est clairement ce que je préfère, moi, enfin, qui est l'intérêt pour moi de Disney+,
Ouais, moi aussi.
c'est, bon, évidemment, le contenu original, mais aussi, surtout, toutes ces séries documentaires, historiques, sur les parcs Disney. Bon, on en reparlera, mais la série sur les parcs Disney,
Elle est
pour moi,
géniale.
c'est la meilleure chose qu'il y a sur Disney+, pour
Ouais.
l'instant, avec The Mandalorian, quand même. Mais ouais, ça fait vraiment un contenu très intéressant, et j'espère qu'ils vont développer ça, quoi, parce que, bon, il y en a pas mal, mais on a vite fait le tour, quand même, là,
C'est ça.
au bout de 2 mois, là, je pense pas que j'ai grand-chose de plus à regarder, en tout cas, au niveau documentaire, etc. J'en ai déjà vu pas mal. Donc, ouais. Et la dernière chose qu'il y a aussi, c'est qui fait partie des originals, c'est les longs métrages que j'appelle sacrifiés,
Oui.
puisque c'est des longs métrages qui étaient prévus pour sortir en salle et dans lequel Disney n'a plus envie de miser parce qu'ils ont peur de se cracher en salle parce qu'ils trouvent que c'est pas au niveau. Et du coup, ça atterrit sur Disney+.
C'est quand même utile. Hein.
Ouais, alors j'ai un avis mitigé là-dessus parce que je me dis, bon, c'est bien qu'on puisse les voir en ayant Disney+, mais je trouve que c'est un peu dégradant à la fois pour ces films-là et pour la plateforme, quoi, parce que d'un côté, ça donne l'impression, bon, bah, ce film, ils sont pas assez bons pour sortir en salle, donc on les met sur la plateforme, donc, c'est un peu dégradant pour le film en lui-même. Et d'un autre côté, ça donne l'image de la plateforme poubelle, entre guillemets, sur laquelle on met les choses qui vont pas marcher en salle. Donc, j'espère que ça sera plutôt pour peut-être des films qui osent plus, qui sont peut-être dans lequel Disney a un peu peur que ça soit trop hors norme pour marcher en salle. Mais pour l'instant, non, c'est vraiment des trucs soit qui ont été bâclés, soit qui... bâclés, j'ose pas dire ça, parce que c'est pas très sympa pour les gens qui ont bossé sur ces films-là, mais voilà,
Je l'ai pas vu comme ça, tu vois. Moi, après, c'est peut-être mon côté un peu trop optimiste, mais je le voyais un petit peu comme à l'époque où les suites sortaient sur cassette vidéo. Alors oui, c'était parce que ça allait pas forcément ça allait pas forcément faire un tabac au cinéma comme les premiers. Après, il y avait quand même des suites, on va pas dire gâchées non plus, bâclées non plus, mais des suites pas terribles. Mais il y avait quand même des suites qui étaient très très sympas, que moi j'aime beaucoup, Le Roi Lion 2 par exemple. La Belle et la Bête 2, que moi j'ai adoré, je sais qu'il y a des pour et des contre, mais moi je l'ai beaucoup aimé. Et donc du coup j'ai un peu l'impression que c'est ça maintenant, que ça, au lieu de sortir en cassette, ça sort sur Disney+, donc c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait, donc je le vois pas comme une plateforme poubelle, dans le sens où c'est pas nouveau de se dire bon, on va pas le sortir au cinéma, on va le sortir ailleurs. Et puis je me dis que c'est aussi peut-être pour ne pas, alors on va pas dire polluer le cinéma, mais... Si Disney sortait du coup un film tous les mois ou tous les deux mois au cinéma, est-ce que tout le monde irait forcément le voir? Je suis pas sûre. Peut-être que c'est bien de se faire attendre. Là, par exemple, je pense à Soul ou à Raya and the Last Dragon, qu'on attend quand même avec impatience. S'il y avait eu des Disney comme ça tous les mois, est-ce qu'on aurait cette impatience de voir le nouveau qui va sortir? Je suis pas sûre. Donc je me dis que ça sort sur Disney+, c'est pas mal. Ça permet d'avoir quand même des nouveautés, mais sans se sentir bombardée par Disney.
Ouais, moi je suis totalement d'accord qu'il faut que Disney+ produise du contenu exprès pour Disney+, de qualité, etc. Peu importe. Et notamment des longs métrages. Là, je pense que la différence, c'est que on pense à La Belle et le Clochard, qui est sorti directement sur la plateforme. Et là, il y a Artemis Fowl qui est un peu un projet maudit et qui finalement sort directement sur Disney+. Dans les deux cas, il me semble, je suis sûre pour Artemis Fowl, pour La Belle Clochard, je suis moins sûre, que c'est des projets qui devaient sortir au cinéma à la base, donc qui ont été faits pour le cinéma et pour lesquels le studio dit non, c'est pas assez bon, ça veut pas aller. C'est la différence par exemple avec des choses qui sont faites vraiment pour la plateforme et dans lesquelles ils mettent tous leurs moyens parce qu'ils y croient, quoi. Donc
pour La Belle et le Clochard, j'ai un petit doute, il me semblait qu'ils avaient vendu Disney+ en mode vous aurez du contenu exclusif comme La Belle et le Clochard et The Mandalorian.
D'accord.
Donc il me semble, je suis pas sûre. Après, je sais qu'il va y avoir, du coup, en continuant sur le sujet des films exclusifs, sacrifiés ou pas, du coup, en fonction du point de vue et du film, il va y avoir, j'ai entendu sur un podcast que j'adore, qui s'appelle Main Street Actu, où il parlait justement de Lilo et Stitch et Hercule, si je me souviens bien, qui vont sortir directement sur la plateforme, et ils expliquaient le budget qui était attribué à ces deux films, et qui était quand même très conséquent, donc... Je me dis que c'est pas forcément un vrai sacrifice, que ça peut être...
C'est des versions live de
Des versions live, et... oui.
Oh là là, ça peut... Là, je suis pas contre que, comme tu dis, qu'ils arrêtent de polluer les salles avec leur version live des classiques des années 90 et début 2000. Mais...
c'est exactement ça. Parce que c'est vrai que les films live, c'est sympa, hein, mais... On commence pas en avoir marre, parce qu'il y en a que j'ai adoré, donc je suis très très contente, mais au bout d'un moment, on a envie d'autre chose. Donc c'est vrai que les faire et les sortir sur Disney+, c'est pas mal. C'est une bonne, bon compromis.
Je suis totalement d'accord avec ce que tu disais, que ça va permettre de plus mettre en avant les longs-métrages originaux qui vont sortir en salle, qui vont vraiment être des événements, du coup, que ce soit du côté de Pixar ou du côté de Disney. Tu parles de Raya, bon, bah, voilà, ça va permettre de mettre vraiment en avant Raya, comme ils ont pu vraiment mettre en avant la Reine des Neiges, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est chouette.
Ouais.
Que du coup, les sorties du Disney, du long métrage d'animation Disney annuel, par exemple, que ça redevienne vraiment un événement, quoi.
Oui. On passe à une prochaine catégorie.
Yes, donc on a les fameux, bah justement, on a déjà parlé des longs métrages Disney, mais du coup, ça permet de, vu que c'est exhaustif, le contenu, enfin en tout cas pas jusqu'à les sorties d'il y a 3 ans,
oui.
Mais notamment, il y a tous ceux qu'on considère comme sous-cotés, ou en tout cas qui sont moins représentés dans l'image qu'on a de Disney, que ce soit dans les parcs ou... Qui passent moins souvent à la télé.
Ou dans le merchandising.
C'est ça. Et donc, on a pu faire des découvertes ou des redécouvertes.
Oui, bah moi, je sais que j'ai découvert les nouveaux héros. Alors, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, allez regarder les nouveaux héros. J'ai adoré. Alors, c'est vrai que l'espèce de gros bonhomme blanc, là, je le voyais de temps en temps, mais j'avais l'impression que c'était un peu un film, c'est horrible à dire, mais un film pour les garçons. Je me suis dit, oh, ça va pas du tout m'intéresser. Tout comme Wall-E, au départ, j'étais là, des robots, ouais, non, c'est pas pour moi. Et au final, c'est pas le genre de film que j'aurais été voir au cinéma. Et le fait de l'avoir sur la plateforme, bah, on regarde parce qu'on se dit, allez, pourquoi pas, je quitte au milieu si ça me plaît pas. Et j'ai vraiment adoré, gros, gros coup de cœur pour ce film.
Ouais, moi je l'avais vu pas au cinéma, mais je l'avais vu il y a quelques années quand même. Mais c'est vrai qu'il est sympa, mais. Il faudrait peut-être que je le revoie parce que j'en ai un souvenir assez, assez diffus. Moi, par contre, ça m'a permis de découvrir la princesse et la grenouille.
Oui, enfin.
Donc, je sais qu'il fallait que je le voie depuis longtemps. Mais là, du coup, bah, le fait d'avoir Disney+, ça m'a permis de me dire, bon, bah, c'est bon, je me le regarde. Parce que là, typiquement, c'est un film qui est sorti dans la période où bah, j'allais plus forcément voir les longs métrages Disney au cinéma. Je considérais que Pixar avait... Enfin, c'est sorti dans les années 2000, quoi, je pense. Donc, c'était vraiment l'époque où bah, c'était Pixar qui était la tête de gondole de Disney au sens large. Et je trouvais que c'était de bien meilleure qualité. Mais au final, bah, c'est très sympa, La Princesse et la Grenouille.
Oui, c'est très, très sympa.
C'est à la fois joli et aussi très intéressant dans l'histoire et surtout des musiques géniales, quoi. Donc... Ouais. Je conseille aussi pour ceux qui, comme moi, sont passés à côté.
Oui, et puis il y a une belle morale, je trouve, avec le fait de devoir travailler pour avoir ce qu'on veut. Puis pour une fois, on n'a pas une princesse blonde à la peau blanche qui se retrousse pas les manches et qui attend son prince. C'est vrai qu'il y avait un petit cap quand même qui a été passé avec ce film, je trouve.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, moi, ça me fait penser que ce qui est bien aussi avec Disney+, c'est que ces longs métrages, alors soit les sous-cotés, soit ça peut être aussi les Disney de notre enfance, hein, donc toute la Team 90, on a parlé des making-of, mais ça permet aussi de les mettre en VO-STFR. Et je pensais à ça parce que du coup, tu vois, tu as vu La Princesse et la Grenouille en VO.
Ah ouais, ouais, ouais. Et je te dis vraiment, il faut que tu le regardes en VO, parce que je sais que toi, tu l'as pas vu en VO encore.
Non.
Il me semble pas. Hein. Mais et là, vraiment, ce film-là, je conseille vraiment à tous ceux qui ne l'ont pas vu ou qui l'ont vu qu'en français, de le regarder en VO parce que les accents, c'est vraiment... Ils sont magnifiques dans ce film.
Ah, j'imagine.
Ouais, non, mais je pense que ça va permettre même de revoir avant de revenir sur Disney Channel, mais on peut peut-être passer à tous ceux qui sont pour le coup pas du tout sous-cotés.
Oui. Les Disney qu'on voit partout.
Qu'on voit partout et notamment bah, les Disney auxquels on est le plus attaché de la Team 90, évidemment.
Bah oui.
Qu'on peut aussi du coup redécouvrir en VO pour ceux qui ont grandi avec les cassettes VHS.
Exactement. Franchement, ça fait plaisir en fait parce qu'on a l'impression de les redécouvrir, que ce soit Aladdin, Le Roi Lion, La Petite Sirène. Rien que les chansons, de les entendre en VO, ça change tout. Donc ça fait plaisir.
Même si quand même on peut rendre hommage à la qualité des doublages français qui sont... C'est que ce soit pour du Disney ou du Pixar, etc. On est quand même gâtés, nous, en France. On a une grande qualité dans le doublage des films d'animation.
Ouais, non, je suis d'accord. Franchement, bravo.
Mais du coup, il y a tout un aspect que moi, je n'ai pas du tout exploré parce que c'est complètement inconnu pour moi. Donc, je vais te laisser en parler. C'est le contenu Disney Channel.
Oui, alors... moi, je n'ai jamais eu Disney Channel, donc je n'ai jamais regardé... cette chaîne et ni ce qu'il y avait dessus. Par contre, là, j'en ai profité parce que j'en avais un peu entendu parler de la série, enfin de la série de films The Descendant. Je me suis toujours dit, oulala, c'est le truc pour ados, c'est pas du tout pour moi. Et au final, on se laisse prendre, les musiques sont sympas, alors les décors, les costumes, ça fait un peu kitsch, les dialogues aussi, on sent que ouais, c'est pas de la même qualité, entre guillemets, et puis tu sens que c'est quand même pour ados. Mais c'était vraiment divertissant. Je sais que toi, t'aimes bien faire du point de croix en regardant des choses légères, et bah tu peux y aller les yeux fermés, c'est léger, c'est marrant, il y a des musiques sympas auxquelles tu t'accroches. Donc je pense que si j'avais pas eu Disney+, jamais j'aurais regardé ça. Et alors, deuxième chose moi que j'ai découvert du coup je pense que c'était sur Disney Channel. Là j'ai un gros doute. Je pense que oui, mais je suis pas sûre. C'était du coup bah la bande à Picsou, hein, DuckTales, là où ça a été mon coup de cœur de Disney+. Et j'ai pas honte de le dire. Je crois que j'ai saoulé tous mes amis avec cette série en mode regardez-le absolument.
Mais tu as réussi déjà à en convertir quelques-unes. Moi,
Oui.
j'ai pas encore commencé, mais je vais finir par m'y mettre.
Oui,
Mais
oui, oui. Petite dédicace à Louli qui m'a suivie et qui est devenue aussi accro que moi. Non, vraiment, je sais que parce que là, c'est un reboot de la bande à Picsou telle qu'elle était sortie dans les années 90, je pense, à peu près. Et je n'avais pas regardé, moi, quand j'étais plus jeune, ça ne me tentait pas du tout. Et il y a quelques années, j'ai commencé à avoir un coup de cœur pour le personnage de Donald, que je trouve souvent dans les parcs Disney et que je trouve marrant, rigolo, attachant. J'adore ce personnage, voilà, je le découvre au fur et à mesure. Et donc j'ai voulu regarder la bande à Picsou parce qu'il y avait Donald. Et je me suis dit, allez, voyons au moins un film d'animation, une série d'animation avec ce personnage. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit, très drôle, en même temps touchant. Les épisodes se suivent, c'est pas que des épisodes séparés. Il y a quand même une histoire, donc on a envie de regarder à chaque fois un peu la suite pour en découvrir plus. Riri, Fifi, Loulou ont chacun un caractère très différent, donc on s'attache vraiment à eux, on les distingue, alors qu'avant pour moi c'était vraiment les mêmes. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus adulte que l'ancienne version à laquelle bah, j'avais regardé peut-être un ou deux épisodes et j'avais pas accroché. Et là, je trouvais qu'il y avait un peu comme La Reine des Neiges 2, il y avait des thématiques pour les enfants et il y a des thématiques derrière, avec un peu des sous-entendus, où en tant qu'adulte, tu comprends des choses en plus et ça fait plaisir en fait.
un peu à
Donc
la
voilà.
Pixar, encore une fois,
Ouais,
d'avoir vraiment
exactement, un peu à la
de...
Pixar. Donc voilà, je conseille à toutes DuckTales. Et puis, alors moi, je le regarde en VF parce que souvent, j'avais commencé à le regarder en faisant autre chose en même temps. Hein, souvent, quand je regarde des dessins animés ou des choses comme ça. Je ne suis pas à 100% devant la télé, je fais autre chose. Du coup, je mets en français pour être sûre de tout capter. Et je sais qu'en VO, par contre, les voix t'intéresseraient fortement. Puisque Picsou, c'est, je n'ai oublié son nom, mais l'acteur qui joue Dr. Wu.
David Tennant?
Oui, exactement, c'est lui.
Ah! Effectivement, mais c'est vrai que je crois que tu me l'avais dit en plus,
Ouais, je crois.
et ça peut être un bon argument pour moi.
Voilà, tu vois, je vais convertir tout le monde. Enfin bref, passons sur Disney Channel, parce que je pense que toi, du coup, tu regardes, t'as pas trop regardé de choses qu'on trouvait dessus.
Pas encore, non, non. Par contre, bon, c'était une de mes motivations pour me mettre sur Disney+, c'est que évidemment Disney+, grâce au fait que Disney est devenu un empire inégalé du divertissement et qu'ils ont racheté tout le monde quasiment, bah il y a pas que du Disney sur Disney+.
Non, bah non.
Et moi d'ailleurs, je trouve bon, ça permet du coup d'avoir un catalogue beaucoup plus varié que si on avait que du Disney, mais je trouve ça hilarant que du coup depuis le rachat de la Fox, bah Anastasia qui est le running gag du film dont tout le monde pense que c'est Disney et qu'Anastasia est une princesse Disney, mais que
Pas
non,
du tout.
ce n'est pas un film Disney, même si ça a été fait par un ancien de
Oui.
chez Disney. Donc c'est pour ça que...
Oui, ça ressemble, il y a l'essence qui est un peu la même derrière.
Voilà. Mais bon, maintenant Anastasia est sur Disney+, donc
Oui, depuis le
voilà.
rachat de la Fox. Donc là, c'est bon. Pour tout le monde, Anastasia est une princesse Disney maintenant. C'est fini.
Bon bah évidemment on a mentionné Star Wars,
Oui.
c'est quand même un sacré contenu
Oui.
qui du coup on retrouve sur Disney+, que ce soit les longs métrages. Bon bah du coup on n'a pas les derniers hein, puisque
Bah
ils
non.
sont trop récents, mais c'est vrai que sur les anciens c'est vraiment chouette. Et puis du coup bah ils ont récupéré les séries d'animation et notamment Clone Wars. Et là pour moi ça c'est mon c'est C'est devant Clone Wars que j'ai passé le plus de temps dans mes premières semaines sur Disney+, pour rattraper toute la série, puisque j'avais pas tout regardé au moment où c'était sorti. Et surtout, la dernière saison originale, là, qui est pour le coup produite par Disney, et qui pour moi est un énorme coup de cœur. C'est vraiment, pour les fans de Star Wars, Clone Wars, franchement, je serais même tentée de dire que c'est le meilleur contenu Star Wars, tout confondu, quoi.
Ah oui.
C'est vraiment... Bon, les longs-métrages, c'est quelque chose, mais vraiment, Clone Wars, c'est tout Star Wars, quoi. C'est vraiment...
Ouais, je vais regarder. J'ai toujours pas regardé, hein. C'est vrai qu'avant d'avoir Disney+, j'avais pas trop le moyen de le regarder. Et du coup, là, je pense que je vais m'y mettre. Je vais profiter de cet été.
Et puis du coup, ils ont les autres séries qui, là, pour le coup, étaient déjà produites par Disney, puisqu'elles ont été faites après le rachat de Disney, mais qui suit du coup Clone Wars. Il y a Star Wars Rebels, qui était diffusée là, pour le coup, sur, je ne sais pas si c'est Disney Channel ou l'équivalent de Disney Channel à cette époque-là, mais qui est vraiment, pareil, une très bonne série aussi, Star Wars, donc c'est chouette. Et puis la nouvelle que je n'ai pas regardée, là, Star Wars Resistance.
Oui.
Donc, qui ont toutes des styles un peu différents, mais là, il y a de quoi faire pour les fans de Star Wars.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes fan de Star Wars, vous savez que Disney+, vous allez avoir des choses.
C'est sûr. Et puis, The Mandalorian. Enfin,
oui, bien sûr. Ouais. Mais ça, on va en reparler quand on va parler des originaux.
Ouais. Mais bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a tout Marvel. Donc, ça, oui, pareil. ça fait un sacré contenu aussi. Donc,
exactement. Ouais.
Je ne me suis pas trop replongée là, dans le Marvel depuis...
Ah, moi si, je me suis refait... je me les suis tous refait là, jusqu'au dernier qu'on peut regarder, hein, parce que du coup, encore une fois, chronologie des médias oblige, ça s'arrête vite, mais ouais, je me les suis tous refait, j'étais assez contente.
Ouais, ça a permis à mes parents, puisque du coup, je partage aussi Disney+, avec mes parents, de se mettre un peu à jour, d'il y a 3 ans, sur Disney+, sur Marvel. Et du coup, ça leur a permis de redécouvrir des films qu'ils n'avaient pas vus, notamment Civil Wars, qu'ils n'avaient jamais vu et sur lequel ils ont beaucoup, beaucoup accroché. Donc, c'est chouette.
Mais il y a également des choses un peu plus courtes, les courts-métrages Pixar.
Oui, alors ça c'est les pépites.
Ouais, mais moi je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que normalement c'était les courts-métrages qui accompagnaient la sortie des longs-métrages au cinéma. Et c'est vrai que j'ai aucun souvenir d'avoir vu, alors peut-être que je les ai vus et que j'avais tellement envie de voir le film que je les ai occultés dans ma tête en mode non, ça n'a pas existé, allez donnez-moi le film. Mais c'est vrai que là je me les suis presque tous fait. J'ai adoré en fait, c'est tellement touchant à chaque fois sur des thèmes variés. C'est beau, c'est bien réalisé, j'ai vraiment adoré.
Ben ouais, c'est vrai que les courts-métrages du coup, classiques qui accompagnaient la sortie des longs-métrages, c'est quelque chose... dans notre famille, on est très fans de Pixar, donc on les a tous vus au cinéma, quasiment tous en tout cas, et surtout on avait quasiment tous les DVD jusqu'à une certaine... jusqu'au récent. Et du coup, les courts-métrages, c'est vraiment... on était autant motivés pour voir le long-métrage que pour voir le court-métrage avant. Et puis, on se les regarde. On a vraiment des courts-métrages Pixar cultes à la maison qu'on s'est déjà revus en boucle, parce qu'on pouvait les retrouver sur YouTube quand même, ou sur les DVD. Et c'est vraiment... Enfin, moi, ça me fait vraiment plaisir de tous les voir au même endroit, sachant qu'il y en a forcément que j'ai loupé, donc ça m'a permis d'en revoir. Et surtout, il y a la série que j'avais découvert moi sur la page, sur la chaîne YouTube de Pixar, des Spark Shots, qui sont aussi des courts-métrages, mais différents là, des courts-métrages classiques qui accompagnaient la sortie des longs-métrages. C'est un programme particulier où le studio, en fait, depuis, c'était lancé en 2019 pour la chaîne YouTube de Pixar, donne 6 mois et un budget limité à un des employés du studio Pixar, un des artistes du studio Pixar, pour produire un court-métrage avec carte blanche sur le sujet, sur le style. Enfin, ils peuvent vraiment... c'est vraiment... En fait, ça fait presque court-métrage d'école d'animation pour ceux qui connaissent un peu les projets de fin d'études, ce genre de choses. Oui. Ça fait un peu penser à ça dans le sens où c'est fait assez rapidement avec un budget limité et où pour le coup, ils sont totalement libres au niveau des thématiques. Et ce n'est pas forcément dans le style Pixar par rapport aux courts-métrages qui accompagnent les longs-métrages. Et vraiment, là, pour le coup, c'est des petites pépites, quoi. Ouais. C'est vraiment
intéressant. J'ai du mal à faire la différence entre les courts-métrages et les classiques et les Spark Shots. Sur Disney+, ils ne sont pas séparés
Si, enfin, en fait, on peut aller voir tous les courts-métrages. Donc là, on les a tous mélangés. Mais après, quand on va dans l'onglet Pixar, ils sont dans deux sous-catégories D'accord, différentes. Super. Il y a la sous-catégorie court-métrage et il y a la sous-catégorie Spark Shots. Et les Spark Shots, il y en a relativement peu. Il y en a 6 ou 7, je crois. Donc, mais c'est vrai que quand on va pas dans l'onglet Pixar, qu'on va dans les courts-métrages, tout est mélangé parce qu'il y a Disney Studio qui produit aussi ces courts-métrages qui ne sont pas forcément Pixar. Donc, oui. Donc tout est mélangé là, à ce niveau-là. Mais quand on va voir vraiment les Spark Shots en eux-mêmes, on se rend compte qu'il y a quand même un style particulier à cette série-là. Même si les courts-métrages Pixar, ils sont pareils de styles très différents. Mais les Spark Shots, j'ai l'impression qu'ils sont plus politiques aussi. Il y a plus un sous-texte social et politique par rapport aux courts-métrages Pixar qui peuvent être des fois juste mignons, quoi.
Alors là, c'est ce que je viens de voir parce que là, du coup, je me suis connectée en parallèle sur la plateforme. Et effectivement, dans les courts-métrages, on va dire classiques Pixar, on a par exemple Bao, oui. qui était moi un peu mon coup de cœur que j'ai trouvé tellement mignon. Donc c'était une dame qui fabrique un bao qui prend vie et puis qui grandit et on comprend à la fin qu'en fait c'est une allusion pour son fils. Donc vraiment très très beau, très très bien fait. Et puis j'ai plus envie de manger de ban bao maintenant. C'est autre chose. Alors que les Spark Shots, on a par exemple le dernier qui est sorti, Out, qui parle de l'homosexualité et de faire son coming out justement à ses parents. Et que ouais. j'ai trouvé effectivement vraiment génial. Et je me suis dit, waouh, alors qu'il y a eu toute cette polémique sur Toy Story 4 ou 5, je ne sais plus, où on voyait au loin un couple de parents, de familles homoparentales qui déposaient leur enfant, où il y a eu des pétitions aux USA, en mode, comment ça, vous montrez de l'homosexualité dans les Disney, c'est un scandale, c'est censé être accessible aux enfants. Enfin, vraiment, mais c'est... Ouais. hallucinant, et bien j'ai trouvé que c'était un peu une réponse à ça, parce que c'était il y a un an hein, cette polémique je crois, c'était un peu une réponse à ça, genre oh là là, stop, regardez nous non, on est ouvert d'esprit c'est à vous de vous d'évoluer en fait
Ouais, non mais tous les Spark Shots ont un sous-texte là-dessus. Moi hier j'ai regardé que j'avais pas encore vu écraser, ramasser, un truc comme ça.
Écraser, ramasser, oui.
C'est ça, où je me suis dit, oh bah ça va juste être un truc ambiance science-fiction, etc., avec des robots, ambiance Wall-E, etc. Bon, même si Wall-E, c'est très politique aussi. Mais je l'ai regardé en mode, bon, quand même, c'est un Spark Shots, donc à mon avis, va y avoir un sous-texte. Et effectivement, je ne vous en dis pas plus, mais allez le voir.
Ouais,
c'est
ne vraiment, dis pas, je ne l'ai pas vu encore.
Ouais, mais voilà, je dis rien, mais effectivement, il y a un sous-texte.
je pense qu'il m'en manque 2-3 dans les Spark Shots. Je pense que je vais le regarder ce midi pendant le déjeuner. Alors donc là, on a fait le tour déjà de ce qu'on pouvait trouver sur Disney+. Il nous manque une catégorie, et pas la moindre, les contenus originaux et les exclusivités.
Oui. Alors ça...
Alors on en a un petit peu parlé, donc la série sur les parcs Disneyland, donc The Imagineering Story.
Mon coup de cœur, clairement.
Ah ouais, qu'on a toutes les deux adoré. Alors, est-ce que quelqu'un qui n'est pas spécialement fan des parcs Disneyland ou qui n'y a jamais été dans les parcs serait intéressé? Moi, je pense que oui, parce que c'est intéressant de voir tout le process de création d'une attraction, d'un parc, d'un univers, en fait. Je trouvais que ça pouvait aussi se rapporter à d'autres thèmes, pas que les parcs d'attractions.
Ouais, et je confirme parce que il me manque, quand j'étais là, le mois dernier chez mes parents, il me manquait que le dernier épisode que j'avais pas vu encore. Et je l'ai regardé du coup avec ma mère qui avait pas du tout, et qui n'est jamais allée dans les parcs Disney. Et elle a été, je pense que c'était le dernier ou l'avant-dernier épisode, je ne sais plus, mais je pense que c'était... Ouais, et c'était la partie où il parlait notamment de l'attraction Avatar à Animal Kingdom. Et ma mère était juste, parce qu'elle, pour le coup, elle connaît le film Avatar, elle l'aime beaucoup. Elle était, mais elle m'en a parlé pendant toute la semaine, quoi. Oh là là, mais c'est incroyable, c'est génial et tout. Ouais. Donc oui, je confirme que c'est... Bon, elle est aussi très amatrice de making-of, et là, on se retrouve dans les making-of des attractions, donc c'est vraiment très intéressant.
Ouais, non, vraiment, je pense que je la conseille, mais je dis ça, mais je pense que tous ceux qui ont pris Disney+, l'ont regardé, cette série. C'est un sûr. Peu l'étape obligatoire quand tu ouvrais ta plateforme, de commencer par ça, ou au moins de la regarder dans la semaine qui suivait.
Ouais. L'autre étape obligatoire, je pense, vu le tapage autour de ça, c'était The Mandalorian.
Que je n'ai toujours pas vu.
Youhou. Mais comment c'est possible que tu...
Alors, en fait, quand c'est sorti sur Disney+, enfin, quand c'est sorti au début sur Disney+, qu'on n'avait pas en France, Ouais. J'ai fait comme beaucoup d'entre nous, j'ai un peu fraudé et regardé en streaming. Le problème, c'est que je supporte plus de regarder comme ça, j'y arrive plus. Alors, est-ce que c'est, je me sens coupable? Non, je pense pas, mais la flemmardise, hein, donc j'ai Netflix peut-être, enfin je sais pas. Donc du coup, j'ai regardé que 2 ou 3 épisodes, et du coup, j'ai arrêté. Et puis je pense qu'il y a eu aussi un peu ce côté du comme tout le monde en parlait. Et puis j'en avais marre d'entendre Baby Yoda, ça me saoulait. Du coup, je pense qu'il y a eu ça aussi, tu vois, le
C'est
côté
le
un peu.
syndrome intouchable.
Exactement, le syndrome intouchable. J'étais un peu en mode. Bah, du coup, quand j'ai vu Baby Yoda pour la première fois, j'étais là. Ouais, ok, d'accord. Et alors? Vraiment, avec sa manière de faire E.T., ça m'a pas plus émue. Alors que peut-être que si j'avais vu sans entendre tout ça, j'aurais adoré tout de suite. Hein. Mais j'ai adoré l'univers qui fait un peu western. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, quand j'aurai la plateforme, je vais le regarder. Et j'attendais que tous les épisodes sortent. Maintenant que c'est fait, je vais m'y mettre. Voilà.
Ouais, bah moi en fait, bah pareil, j'avoue, j'ai fraudé aussi et j'ai regardé vraiment au moment où c'est sorti. Et justement, j'ai été assez réactive pour ne pas être au courant du Baby Yoda et donc d'avoir la surprise en regardant l'épisode. Donc évidemment, ça veut dire que je l'ai regardé le jour de la sortie sans avoir ouvert les réseaux sociaux, parce que c'était impossible
Ah
sinon de
ouais, sinon
passer à
non, oui.
côté. Et du coup, ça m'a vraiment fait... Enfin, j'ai eu l'effet waouh et oh mon Dieu, il est trop mignon, quoi.
Oui.
En même temps, au moment où tout le monde n'en pouvait plus, enfin, au moment où tout le monde était en admiration devant ce petit enfant.
Oui.
Et puis, bon, bah, j'adore l'ambiance de cette série, l'ambiance western. Donc, je les ai vraiment regardés au moment où ils sortaient. J'écoutais des podcasts qui analysaient chaque épisode. Vraiment,
Ah oui,
j'étais à
toi
fond,
t'étais
quoi.
vraiment à fond.
Ouais.
Non mais je vais m'y remettre et à la rigueur on refera un épisode. De toute façon on avait dit qu'on refera un épisode spécial Star Wars où on parlera des films, des séries, des making-of, des séries animées. Donc faut que je me mette à jour et...
Ça sera peut-être une série d'épisodes parce
Oui sinon ça sera trop long. Ouais. Bon, sinon, autre chose, contenu original que moi j'ai adoré, je crois que t'en as vu quelques-uns aussi, c'est Souvenirs de tournage. Alors, je sais
ouais.
que certains étaient. J'ai entendu pas mal de critiques comme quoi certains étaient déçus parce qu'ils avaient l'impression que ça allait être comme sur Netflix, The Movie That Made Us, quelque chose comme ça. Et en fait, pas du tout. Là, c'est un collectionneur qu'on suit qui nous montre sa collection ou qui nous montre des pièces, en tout cas de collection, ou qui va voir à droite à gauche, avec des personnes qui ont travaillé sur les films et qui racontent des petites anecdotes. Et moi, en fait, comme je m'attendais à rien, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai regardé que les films que je connaissais bien et que j'adorais. Hein. J'ai pas regardé sur les
Oui.
films que j'aimais pas trop ou que j'ai jamais vus. Et du coup, j'ai trouvé ça très émouvant, particulièrement pour moi, l'épisode sur Mary Poppins.
Ouais.
Gros coup de cœur. Et toi, je sais que
Ouais.
c'était sur Pirates des Caraïbes que t'as beaucoup aimé, tu m'avais dit.
Ouais, j'ai beaucoup aimé Pierre des Caraïbes parce que bah là en plus j'ai l'impression que je rentre dans une phase revival de Pierre des Caraïbes. J'ai trop envie de me refaire un marathon. Des trois premiers films, hein, pas de tous, hein, faut pas
Oh,
exagérer.
le 5 est bien. Le 4, non, mais le 5 est bien.
Le 5, ouais, peut-être, mais bon, les trois premiers
Oui,
parce
déjà.
qu'il y a Orlando Bloom et voilà quoi.
Bah, dans le 5 aussi, hein.
Ah, c'est vrai! Ah, t'as raison! Bon, bah, c'est bon,
Il
je remets le 5 dans ma
n'y a que le
liste.
4, en plus, il sert à rien. On peut l'oublier, lui.
Bref, mais du coup, ouais, ça m'a vraiment, vraiment intéressé cet épisode-là. Et puis il y a celui sur l'étrange Noël de Monsieur Jack que j'ai trouvé
Oui.
génial aussi.
Oui.
Donc, mais encore une fois, un passion making-of. Et du coup, j'adore moi tout dans les making-of, outre le côté making-of des tournages, le côté des artistes qui sont derrière, qui font les concept art, qui font les objets, qui font les décors. Enfin, moi je trouve ça
Ouais.
fascinant quoi.
Ouais, je
Donc
trouve aussi. Je pense
c'était vraiment
on leur rend vraiment hommage du coup sur Disney+.
ouais. Et ça c'est vraiment chouette. Bon, on a déjà parlé de la dernière saison de Clone Wars, donc
Oui, donc on
on
va pas
passe,
revenir
mais
dessus.
je redis les quatre derniers épisodes. C'est un long métrage en soi. On peut la regarder comme un long métrage indépendamment du reste. Et c'est largement du niveau des longs métrages classiques, quoi.
Mais je vais
Donc.
regarder. Je te promets, je vais regarder. On va pas revenir non plus sur les films sacrifiés dont on a bien
Ouais, on
parlé.
a déjà parlé.
Une autre exclue qui va bientôt arriver, qui n'est pas encore là, mais dont on fera tout un épisode entier dessus. Donc on va pas du tout en parler là maintenant, mais c'est Hamilton.
J'en peux plus, ça approche, ça approche.
Dans
Le
moins d'un
3
mois, dans 3 semaines.
juillet.
Ouais, 3 semaines.
Oh là là.
Ouais, parce qu'alors Marjo est une grande fan d'Hamilton. On a d'autres copines qui sont grandes fans aussi. Moi, je n'ai jamais vu, jamais écouté de musique, mais j'adore les comédies musicales, donc je suis sûre que je vais adorer. En plus, j'adore Lin-Manuel Miranda, donc je pense que on a tout très hâte de le voir
Ouais.
sur Disney+, et d'en
C'est
faire
sûr.
un épisode spécial.
Je pense que vous n'êtes pas prêts
Non.
pour cet épisode. Tu n'es pas prête
Surtout
pour
pas,
cet
surtout pas moi.
épisode.
Je crois que je suis vraiment surtout pas moi prête. Du coup, petit bilan de tout ça. On va revenir sur qu'attendons-nous de la suite, de son évolution, et puis est-ce qu'on est convaincu ou pas, et est-ce qu'on le recommande, quels sont les pour et les contre.
Ouais.
Niveau évolution, alors il y a quelques nouveautés le vendredi. Donc c'est surtout les épisodes des séries originales Disney+ qui sortent. Mais je trouve que ça reste quand même assez faible parce qu'il n'y a pas de grandes, grandes nouveautés. En fait, c'est juste l'épisode d'après qui sort. Ils ont annoncé quelques grands films à des dates précises. En fait, bah, c'est les fameux 3 ans. Hein. Donc là, je crois que il me semble que c'est Spider-Man le premier, ou qui va sortir
D'accord.
cet été, parce que bah, pareil, ça fait pile 3 ans qu'il sera sorti au cinéma. Mais ils font très peu de com dessus, je trouve. Hein. On cherche les infos, c'est une catastrophe. Et de toute façon, comme on l'a dit, du coup, bah, et qu'on le dit plusieurs fois, mais je pense que parce que tout le monde, on n'est pas revenu vraiment dessus, mais je pense que tout le monde est un peu au courant. En France, il y a la chronologie des médias qui fait qu'ils ne peuvent pas mettre un film sur la plateforme avant 3 ans.
Ouais, parce qu'ils ne respectent pas les... En fait, y a une grande différence en France entre les différentes plateformes qui participent ou pas au financement de la production cinématographique en France, qui est sponsorisée enfin, via l'État, en gros, le CNC, etc. Elle récupère des sous et après, elle les redistribue pour soutenir la production en France. Et du coup, bah, les plateformes américaines, Netflix, Amazon et du coup Disney+, ils ne participent pas, en fait, au financement de la production cinématographique. Ils ne payent pas les taxes, en gros, que récupère normalement le CNC. Et donc, du coup, en punition, entre guillemets, et ben, ils ont un délai de 3 ans après la sortie en salle en France, qui permettent, parce que c'est pour permettre différents niveaux d'exclusivité en fonction de la participation de la plateforme sur laquelle est diffusé le film à la production en France. Donc, c'est pour ça que par exemple, il y a des exclusivités qui se négocient avec des chaînes télé. Donc, par exemple, il y a des films qui vont passer d'abord à la télé en France avant d'être sur certaines plateformes. Et on a parlé bah voilà, par exemple, une plateforme comme Canal+ ou OCS, eux, c'est des plateformes vertueuses, comme ils les appellent en France. Donc, ça leur permet d'avoir des diffusions 6 mois après la sortie en salle. Donc,
Alors après, moi, ce que je trouve un peu, on va pas dire bizarre, mais je sais pas le mot exact. Bon, je vais dire ma phrase et on va peut-être trouver le mot après. C'est que Disney Plus, enfin, ça appartient à Disney, qui est le producteur des films en fait. Donc c'est vrai que c'est étrange que le producteur n'ait pas son mot à dire sur la diffusion, sur leur propre plateforme de leur propre film. Et je pense que ça risque peut-être d'évoluer. Alors après, c'est peut-être moi encore une fois et mon optimisme, mais je me dis qu'il y a quand même une recrudescence. Ça se dit recrudescence?
Oui.
Il y a quand même une recrudescence. Il y a quand même une recrudescence des plateformes. Alors, il y en a une qu'on n'a pas parlé, c'est Canal Plus Série, parce que ni toi ni moi on est dessus, donc c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout mentionné. Mais il y a quand même de plus en plus de plateformes comme ça, et quand même de moins en moins de monde qui regarde les films à la télévision ou qui achète les DVD. Donc, je me dis qu'il y a quand même moyen que cette fameuse chronologie des médias soit un peu chamboulée. Est-ce que c'est juste mes attentes, mes espoirs, mes rêves, ou ça aura lieu? À voir.
Je pense que là où ça peut bouger, c'est effectivement la concurrence entre les chaînes de télé et les plateformes. Par contre, je pense qu'il y aura toujours ce gap qui n'existe pas aux États-Unis entre l'exploitation en salle et le fait de les avoir disponibles sur une plateforme. Parce que voilà, il y a un système en France qui protège énormément l'organisation du cinéma et les exploitants en salle, les distributeurs, ce qui est complètement différent des maisons de production. Là, c'est ces deux systèmes qui sont complètement séparés. Et donc, du coup, pour supporter les distributeurs et les exploitants, bah, y a vraiment un système très, à la fois très contraignant, mais qui permet bah, que, mine de rien, bah, on a, enfin, en France, l'offre cinéma est quand même très bonne. Et puis, ça permet aussi d'avoir un... Parce que même si le cinéma en France est assez cher, c'est rien comparé avec le cinéma aux États-Unis.
Ouais, c'est
donc,
vrai.
Donc, et c'est permis par ça, notamment par le fait qu'ils sont protégés aussi et qu'ils sont largement subventionnés. Donc, il y a toutes ces problématiques qui nous dépassent un peu. Hein. On n'est pas du tout spécialiste de ça, mais c'est plus compliqué que ça en a l'air en premier abord. Mais je suis d'accord que ça risque de poser des gros problèmes à Disney+. Je pense notamment par rapport au décalage qu'il va y avoir entre le contenu exclusif qui sort directement sur la plateforme et le contenu qui sort en salle. Parce que notamment, moi, je pense au MCU, donc Marvel Cinematic Universe, qui du coup est un... Clairement, c'est une narration, comme on dit, transmédia, où il y a à la fois des parties de l'histoire qui sont dans les... Enfin, qui vont être dans les séries, qui vont compléter ce qui se passe dans les longs-métrages qui sortent au cinéma. Et du coup, d'avoir ce gros décalage entre ce qu'il va y avoir dans les séries Marvel et les longs-métrages qui vont être sur la plateforme, ça risque de poser problème, je pense.
Oui, c'est vrai. Donc, à voir comment ça évolue.
Ouais.
Au niveau du bilan, on fait les pour d'abord. Est-ce qu'on vous le recommande? Ouais. Pourquoi, oui, il faut avoir Disney+.
Alors moi, je dirais que dans les pour, bah quand même, il y a quand même là une grande richesse dans le contenu pour ce qui est des classiques. Et on peut redécouvrir beaucoup de choses. Et on peut aussi... moi, j'aime bien le fait qu'on peut se faire des programmes thématiques à la carte. Enfin, moi, j'ai notamment... involontairement, mais au final, je me suis rendu compte que je me suis fait un programme 100% Mary Poppins qui est hyper complet, puisqu'il y a énormément de contenu Mary Poppins. Donc évidemment, il y a le film original. Mais il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais on s'est toutes les deux revues le long-métrage Dans l'ombre de Marie.
Un super beau film, vraiment, je vous le conseille.
Voilà, qui parle de l'autrice de Mary Poppins et de l'époque, enfin de toute la période où Walt Disney essayait de la convaincre de lui céder les droits de son livre, donc avec Tom Hanks et Emma Thompson. Donc on peut se le regarder et puis enchaîner avec l'épisode Souvenirs de tournage dont on a parlé.
Exactement, oui.
Et avec le docu sur les frères Sherman qui couvre la période de Mary Poppins et qui est très drôle à regarder en parallèle du film Dans l'ombre de Marie.
Oui.
C'est vraiment, il manque plus que bah, le retour de Mary Poppins qui n'est pas encore dispo, mais...
Non, dans un an et demi maintenant.
En attendant ça, on peut quand même se faire un bon petit programme Mary Poppins. Oui.
C'est vrai. On a quand même un catalogue qui est assez complet, même si on a dit qu'il était moins que Netflix ou que d'autres plateformes, qui est assez complet, avec beaucoup de making-of, beaucoup de films Disney un peu oubliés. Hein. Il y a pas mal, là on a cité vraiment les films, soit que nous on adorait, qu'on connaissait, soit quelques petites découvertes, mais il y a quand même d'autres découvertes, d'autres petites pépites à aller fouiller.
Oui, et il y a aussi, du coup, je pense que c'est pour tous ceux qui sont intéressés par l'histoire de l'animation au sens large, il y a énormément de contenu très ancien pour le coup. Et là, on dit Disney+, on a l'impression que ça a une vocation aussi d'archives. On peut tomber vraiment sur des courts-métrages des années 30, sur des choses des années 50. Moi, je suis tombée sur un court-métrage où c'était une collaboration entre Dali et Disney. Enfin, c'est un truc complètement what the fuck, mais très intéressant. Et vraiment, il y a, pour ceux qui sont passionnés d'animation, c'est super. Et puis, qui sont passionnés de l'histoire de Disney, hein, évidemment. Oui, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Après, donc là, on parle beaucoup de contenu. Enfin, nous, ce qui nous a marqué, là, j'ai l'impression de ce qui ressort, c'est tout ce qui est making-of, documentaire, contenu sur l'animation, en plus des films. Hein. C'est vrai que du coup, je pense qu'à ceux qui s'intéressent vraiment que aux films franchisés, aux Disney purs et durs, de ce qui sort au cinéma, voilà, La Reine des Neiges, etc. Effectivement, ils vont peut-être avoir vite fait le tour de Disney+, et se lasser, et se dire, bah non, j'ai pas ce qu'il me faut, il n'y a pas les nouveautés, moi, le docu sur les frères Sherman, ou sur le parc Disneyland, je m'en fiche, et ça, ils vont peut-être avoir vite fait le tour à cause de ça.
Ouais, je pense que le manque des nouveautés des 3 dernières années, vu en plus le côté prolifique de Disney qui sort énormément de choses sur toutes ses franchises tous les ans, 3 ans, c'est énorme pour une compagnie comme Disney en termes de volume de contenu. Surtout ces 3 dernières années, quand on pense à Marvel, à Star Wars et à Disney, enfin c'est les 3 dernières années, quand on y pense, enfin c'est énorme ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Donc de pas l'avoir sur une plateforme Disney, c'est vraiment
C'est dommage,
problématique. Et du coup, outre le problème lié à ces nouveautés qui sont pas dispo, je pense que c'est un service qui se suffit pas forcément à lui-même. Enfin, si on a que Disney+, c'est pas suffisant pour avoir une offre vraiment variée pour tous les publics, parce que même si c'est varié grâce au rachat de plein de studios, etc., et de plein de franchises, il n'y a pas de contenu adulte quand même. Enfin, faut
Oui,
pas.
c'est vrai. Non, ça manque un peu, ouais.
Par rapport à Netflix ou OCS, même si OCS a un catalogue beaucoup plus restreint, bah, il y a quand même du contenu. Certes, le contenu destiné aux enfants est moins prolifique que Disney, mais il y a des films grand public, comme on l'a dit, hein, il y a Spider-Man par exemple, effectivement, il récupère les Marvel plutôt que Disney, ce qui est quand même un comble. Mais voilà, il y a le contenu HBO, et puis bon, bah, évidemment, Netflix, il y a des séries, autant des séries pour ados que des séries pour adultes, que des documentaires, enfin, c'est vraiment beaucoup plus généraliste.
Oui, c'est
Donc
vrai.
Disney, c'est voilà, il faut vraiment être amateur de l'univers Disney et des franchises qu'on y trouve dessus pour y trouver son compte, quoi.
Alors après, il y a quand même, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même quelques documentaires qui sont pas Disney, qui sont adultes et qui sont que j'ai pas encore regardé, mais qui je sais qu'ils sont dans ma top liste. Récemment, il y avait un documentaire sur l'Atlantide.
Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça sur ma page, il me le recommande.
Ah bon? D'ailleurs, défaut de Disney+, je trouve que moi, il me change pas du tout mes recommandations. Hein. J'aimerais bien que ça varie un peu plus, parce qu'au bout d'un moment, soit si je les ai pas vus, c'est que ça m'intéresse pas, si je les ai pas mis dans ma liste, soit je les ai déjà vus, mais il me propose toujours la même chose.
Ah ouais, ça j'ai pas remarqué. Je crois pas que je vais avoir le même problème, mais je suis
Ah
pas
ouais?
sûre.
Ah bon, bah. C'est un peu pénible. Après, bon, je pense que de toute façon, je regarde rarement les recommandations, ou alors je regarde sur des chaînes YouTube ou dans des podcasts. Donc j'ai pas spécialement besoin de la recommandation de Disney+, mais c'est vrai que. Mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs en tout cas documentaires qui avaient l'air intéressants comme ça, un peu plus adultes. Après, effectivement, ça reste une minorité.
Bah c'est tout le contenu, on n'a pas trop parlé parce que je crois qu'aucune de nous deux ne l'a trop exploré, mais c'est tout le contenu National Geographic
Ouais.
qui est du coup peut être, enfin c'est quand même National Geographic, même à mon avis le truc sur l'Atlantide, c'est un truc qui est que devant lequel les parents peuvent mettre les enfants, et
Ah oui, bien sûr, oui, ça c'est sûr.
c'est pas un documentaire sur sur Quentin Tarantino que j'ai regardé sur OCS, tu vois,
Ah oui,
c'est
non,
autre chose, quoi.
non. Non, non, c'est vrai. Ok, bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour.
Ouais, bon, on reparlera probablement de Disney+, quand on parlera plus spécifiquement de certains des contenus sur lesquels on a envie de plus s'appesantir, ou bah, des prochaines nouveautés. Je pense que
Oui.
dans quelques semaines, on va être tous devant Disney+, n'est-ce pas?
Exactement.
On va même rester dans l'univers Disney, Pixar en l'occurrence, dès notre prochain épisode qui va arriver, je pense, assez vite, puisque on va, pour fêter la réouverture des cinémas en France, on vous proposera notre avis sur En avant, le dernier Pixar, donc Onward en
Oui.
VO, qui est sorti juste avant le confinement, qu'on a eu toutes les deux le temps d'aller voir juste avant le confinement, mais qu'on va certainement se revisionner pour vous
Oui.
donner notre avis, puisqu'il revient en salle dès le 22 juin.
C'est ça.
Pour vous encourager à retourner dans les cinémas, on se dit, bah, remettre en avant un Pixar qui risque... En avant un Pixar qui s'appelle En avant. Remettre en avant En avant.
Oui.
Parce que ça serait dommage que
Oublié.
le confinement le fasse passer dans les Pixar oubliés, quoi.
Mais oui, c'est ça. Bien, bonne journée à tous et puis à très bientôt.
À bientôt!